RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien Coquel-Rouen, bonjour à toutes et à tous.
20 mois de guerre à Gaza et des centaines de milliers d'Italiens dans les rues pour dire stop.
Stop au massacre, stop à la complicité de l'État italien, ont hurlé plus de 300 000 manifestants hier à Rome. Alors que la barre des 54 000 Palestiniens tués dans l'enclave a été franchie, reportage au cœur du cortège romain à suivre dans un instant. En Colombie, un candidat à l'élection présidentielle grièvement blessé lors de ce que le gouvernement a qualifié d'attentat. Miguel Uribe, touché par 3 balles, dont 2 à la tête. Le sénateur conservateur pris en charge en urgence par les secours colombiens. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Demain s'ouvre à Nice la conférence de l'ONU sur l'océan. Les pêcheurs ouest-africains alertent sur l'état déplorable des eaux dans leur région. Tandis qu'Emmanuel Macron tente un virage écolo avant la venue des dirigeants du monde entier. Et puis enfin, Roland-Garros, une nouvelle finale de rêve espérée sur la terre battue. Après le sacre de Coco Gauff chez les femmes, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz s'affrontent tout à l'heure chez les hommes.
Manif monstre à Rome pour dire stop au massacre à Gaza.
300 000 personnes dans les rues de la capitale italienne, selon les organisateurs comme selon la police. Des manifestants qui ont convergé vers la place San Giovanni à l'appel des partis d'opposition qui ont fustigé le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, accusé de complicité. Gaza encore bombardé ce samedi par l'armée israélienne. 36 personnes sont mortes hier selon la défense civile gazaoui et plus de 54 000 Palestiniens pour l'immense majorité des civils ont été tués depuis octobre 2023. C'en est assez, s'est écrit la rue romaine. Reportage dans le cortège d'Anne Lenier.
Sous un soleil flamboyant, des milliers de drapeaux ont flotté dans les rues menant de la Piazza Vittorio à la Piazza San Giovanni. Parmi les manifestants, Maria Rosaria synthétise les raisons de sa présence.
Ce qui me choque le plus, c'est l'utilisation de la famine sur la population comme une arme de guerre.
À ses côtés, Roberto Fico, cofondateur du mouvement 5 étoiles et ancien président de la Chambre des députés, juge le gouvernement Meloni trop proche des positions de Trump face à Netanyahou.
Netanyahou est de fait un criminel de guerre. Sa réponse à la terrible attaque du 7 octobre est disproportionnée. Nous attendons du gouvernement Meloni qu'il ne soit pas seulement une filiale de Washington.
Sur la scène, dressée Piazza San Giovanni, Elie Schlein, leader du Parti démocrate, principale force d'opposition, s'est exprimée en ces termes.
Le gouvernement italien doit sortir de son silence complice. Nous devons agir comme d'autres pays européens l'ont fait, reconnaître l'État de Palestine.
La manifestation s'est conclue avec Bella Ciao, jouée par le célèbre trompettiste Paolo Fresu. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et Gaza, où de nouvelles distributions de la GHF, la fondation soutenue par les États-Unis et Israël, ont dégénéré. 6 personnes ont été tuées en marge de ces distributions, alors que le blocus israélien est toujours largement à l'œuvre. Blocus que tente de percer la Madeleine, navire humanitaire qui doit atteindre les côtes gazaouis ce dimanche. Par ailleurs, en Israël, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans les rues de Tel Aviv pour réclamer la libération des otages et exiger un cessez-le-feu immédiat, 20 mois jour pour jour, après le début de la guerre entre l'État hébreu et le Hamas.
Et il y a 6 mois, jour pour jour, Bachar al-Assad fuyait la Syrie.
Chassé par Ayat Tahrir al-Sham, après s'être emparé une à une des plus grandes villes du pays, le groupe armé d'Ahmed al-Shara prenait la capitale Damas le 8 décembre dernier et chassait Bachar al-Assad du pouvoir en Syrie après plus de 50 ans de règne du clan Assad. Le président syrien qui prenait la fuite vers la Russie, un tournant majeur dans l'histoire du pays où tout reste à bâtir. On y revient tout au long de la matinée avec nos reportages à Deraya et Latakié et sur notre site RFI.fr.
En Colombie, un candidat à la présidentielle blessé par balle.
Miguel Uribe, touché par 3 balles. Un attentat, selon le gouvernement, contre ce sénateur conservateur de 39 ans. Il était en plein discours à la tribune dans l'ouest de Bogota quand des coups de feu ont retenti. Miguel Uribe est soigné en urgence. Le tireur a été interpellé, indique le maire de la capitale colombienne. Correspondance à Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Les tirs ont éclaté en fin d'après-midi. Miguel Uribe, qui prononçait un discours devant quelques dizaines de badauds, s'est écroulé. Il aurait reçu 2 ou 3 tirs dans le dos, selon le témoignage d'un ambulancier. 2 autres personnes ont été blessées. La police affirme avoir arrêté l'individu qui a tiré. Il s'agit d'un mineur de 15 ans. La violence politique a cédé depuis plusieurs années en Colombie et cet attentat a créé la surprise. Tous les responsables politiques l'ont énergiquement condamné. Le président Gustavo Petro a annulé un déplacement prévu en France. La campagne pour la présidentielle de mai 2026 n'a pas officiellement démarré, mais elle est dans tous les esprits et elle attise tensions et rivalités. Miguel Uribe briguait l'investiture de son parti, le très à droite Centre démocratique, fondé par l'ancien président Alvaro Uribe. Les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. Mais le jeu électoral au sein du parti et dans le pays est encore très ouvert. Miguel Uribe ne dépassait pas 4% des intentions de vote dans les derniers sondages. Difficile de comprendre qui a pu vouloir le tuer. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Et l'élection présidentielle colombienne qui doit se tenir en mai 2026, un attentat qui a immédiatement fait réagir Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a blâmé la gauche colombienne et a appelé l'actuel président colombien Gustavo Petro à modérer sa rhétorique incendiaire et à protéger les représentants publics colombiens.
Trump envoie l'armée en Californie.
Depuis deux jours, des affrontements ont lieu à Los Angeles entre les forces de l'ordre et des manifestants. Manifestants qui s'opposent à des opérations d'arrestation de migrants. Et en réponse, Donald Trump a donc annoncé l'envoi de 2000 membres de la garde nationale. Décision immédiatement critiquée par les démocrates. Ils estiment que cela irait dans le sens de provocation et cela provoquait notamment une escalade de tensions, informations sur laquelle nous reviendrons dans le prochain journal avec notre correspondant Edouard Maille.
Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan.
Journée qui prend une résonance particulière car demain à Nice, dans le sud de la France, se tiendra la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Chefs d'État et responsables du monde entier sont attendus sur la Côte d'Azur, notamment des dirigeants ouest-africains. Les communautés de pêcheurs de la région alertent depuis des années sur l'état d'épuisement des océans, à l'image de Cher Norba et les capitaines de port du port de Tombo en Sierra Leone.
Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui, mais surtout, il n'y a plus de poissons et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10 ou 11 heures qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson. Il y a beaucoup plus de bateaux qu'avant et certains utilisent des techniques de pêche destructrices pour l'environnement qui empêchent les poissons de se reproduire. Ici, la pêche est la seule option. On n'a pas d'usine, on n'a pas d'autres secteurs d'activité. La seule chose que les gens savent faire, c'est pêcher. Donc, les jeunes qui sont nés ici se lancent automatiquement dans la pêche. Aujourd'hui, les choses se sont modernisées. Pourtant, là où autrefois on dépensait peut-être 20 litres, 30 litres d'essence pour aller attraper du poisson, c'était possible de faire des affaires. Mais aujourd'hui, il faut peut-être dépenser 100 litres, 150 litres de carburant pour arriver au même résultat.
Des propos recueillis par Lisa Fabian.
Un sommet sur l'océan qu'Emmanuel Macron entend transformer en véritable mobilisation, selon ses mots.
Le président français actuellement en visite d'État à Monaco, qui hisse le pavillon vert, l'écologie, à la marge des priorités politiques en France ces dernières années. Mais dans un entretien à la presse quotidienne régionale française, Emmanuel Macron s'en prend au recul législatif des dernières semaines concernant la défense de l'environnement. Aurélien Devernois.
C'est une erreur historique de céder aux facilités du moment et de détricoter les mesures prises ces dernières années en faveur de l'environnement, tempête Emmanuel Macron dans son viseur. Les récents votes supprimant les zones à faible émission dans les grandes villes, la réintroduction d'un pesticide classé cancérigène et la suspension du dispositif de rénovation des logements trop gourmands en énergie. Emmanuel Macron, qui en profite pour tancer son propre camp, j'attends du gouvernement qu'on maintienne la politique en faveur du climat, m'origène-t-il, en déplorant le lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers, critique envoyée notamment au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le chef de l'État se voit comme un capitaine résistant à la tempête climatique et ne goûte guère non plus les critiques venues de la gauche. « Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir », assène-t-il, rappelant que la France a diminué de 18,5% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2017. Et il espère que le sommet de Nice permettra de renforcer ce bilan avec des mesures sur la pêche illégale ou les fonds marins. Emmanuel Macron, qui promet de se battre jusqu'à la dernière seconde pour tenir la promesse de son second quinquennat, qui devait être écologique ou ne serait pas, la seconde option semblant apparemment un peu trop proche à son goût.
Le sommet de Nice qui s'ouvre donc demain, RFI sera sur le pont, journée spéciale à suivre toute la journée de lundi sur notre antenne.
RFI 7h09 à Paris et à Belgrade, dimanche d'élections en Serbie.
Deux élections municipales locales scrutées de très près car elles auront valeur de test pour le parti du président Aleksandar Vučić. Pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation qui secoue le pays, sa formation sera opposée à une liste indépendante de candidats soutenus par les étudiants. Les manifestations qui s'enchaînent depuis novembre dernier en Serbie. Explication Jelena Tomić.
tous les regards sont rivés sur Zaječar, ville à l'est, et Kosjerić, une petite localité située à l'ouest de la Serbie, où 56 000 électeurs au total vont élire leurs représentants pour les 4 prochaines années. Ces élections ont valeur de test aussi bien pour le parti au pouvoir que le mouvement étudiant qui, après plus de 6 mois de manifestations anticorruption massives, réclame désormais des élections législatives anticipées. Des élections rejetées à ce stade par le président Aleksandar Vučić et dont le parti SNS sera pour la première fois défié au niveau local par une liste unifiée soutenue par les étudiants et composée de candidats indépendants, de membres de l'opposition et de nouveaux venus en politique. L'ONG CERTA a enregistré de nombreux incidents durant les campagnes électorales dans ces deux villes. Les pratiques normalisées d'achat de voix et de propagande se sont étendues à des violences verbales et physiques contre des militants de l'opposition, des journalistes et des citoyens de Zaječar et Kosjerić. De nombreux groupes de la société civile ont appelé à une mobilisation citoyenne d'ampleur pour empêcher les manipulations électorales et les intimidations des électeurs.
Yelena Tomic du service international de RFI.
Et puis une américaine à Paris, Coco Gauff, a mis tout le monde à terre à Roland-Garros.
Et à la fin, c'est Coco qui gagne, un combat de 2h40 sur la terre battue parisienne en finale. L'américaine Coco Gauff, insubmersible face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, victoire en 3-7, le premier sacre pour la joueuse de 21 ans à Paris, elle qui avait déjà remporté l'US Open face à la même Sabalenka. Et aujourd'hui, Julien, on espère un si beau combat chez les hommes, le tenant du titre, Carlos Alcaraz, qui défie le numéro 1 mondial, italien, Yannick Sinner. Nouvelle finale de rêve en perspective, Eric Mabrut.
Leur rivalité a beau avoir débuté il y a 4 ans, jamais Carlos Alcaraz et Yannick Sinner ne s'étaient encore donné rendez-vous en finale d'un grand chelem. La 12e confrontation entre ces deux nouveaux monstres du circuit au style radicalement opposé s'annonce donc encore plus pimentée que d'habitude. Confirmation avec Joe Wilfried Tsonga.
C'est la finale rêvée, c'était la finale qu'on attendait un peu au début du tournoi quand même. Il y a deux joueurs complètement différents, un qui sait faire un peu plus de choses avec la balle, c'est Alcaraz, et puis un autre qui est un rouleau compresseur qui est capable de prendre la balle très très tôt et de frapper de toutes ses forces. Donc deux joueurs exceptionnels. On va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, c'est une belle confrontation.
Entre Carlos Alcaraz, 4 grands chelems déjà remportés, et Yannick Sinner, 3 fois couronné, difficile de détacher un favori. Et ce même si l'Espagnol reste sur 4 victoires consécutives face au numéro 1 mondial italien. L'ancien joueur français Fabrice Santoro.
Il y a un petit avantage psychologique, c'est sûr, mais les deux sont monstrueux sur terre. Même Sinner a été plus impressionnant encore, parce que c'est lui qui n'a pas perdu le moindre set. Carlos en a perdu 4 depuis le début du tournoi. C'est une finale qui me semble assez indécise. On verra déjà les conditions de jeu. Franchement, on va se régaler. J'ai presque envie que le toit soit fermé parce qu'une finale dans le vent, ça nous proposerait forcément un spectacle inférieur.
Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, deux hommes jusque-là invaincus en finale de Grand Chelem. Cette fois-ci, il ne pourra en rester qu'un. Eric Mamrut, Roland Garros, RFI.
Et première balle attendue aux alentours de 13h, temps universel. Autre finale à suivre sur RFI en football, cette fois-ci le Portugal et l'Espagne qui se disputent la Ligue des Nations. Match à suivre à 19h, temps universel en direct et en intégralité sur notre antenne.
Merci Martin Guez, à tout à l'heure. Dimanche 8 juin 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et à la une, notamment aujourd'hui l'escalade entre Donald Trump et les manifestants anti-expulsion. Le président américain a déployé cette nuit 2000 officiers de la garde nationale à Los Angeles, en Californie, où la population conteste les opérations de police contre les migrants. Le point avec Edouard Maille aux États-Unis dans le journal de 7h, temps universel. Sur RFI ce matin, on marque aussi les 6 mois de la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Reportage à suivre dans le Nord-Ouest où les soutiens du président déchu continuent de menacer et de cibler les nouvelles autorités. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan à la veille de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice dans le sud de la France. On en parle toute la matinée sur RFI et RFI.fr et notamment dans une heure avec notre tour du monde des correspondants. Pour commencer ce matin, c'est en Allemagne que nous partons. L'Allemagne confrontée, on en parle souvent, au vieillissement de sa population. Un Allemand sur 5 a aujourd'hui plus de 65 ans et ça ne va faire qu'augmenter dans les prochaines décennies. Une tendance démographique aux conséquences très lourdes, notamment sur l'économie, et qui fait surgir de nombreuses questions, notamment celle-ci. Quelle prison pour les seniors, alors que la population carcérale ne cesse de vieillir elle aussi. Nous sommes ce matin en Rhénanie, dans l'ouest du pays, où se trouve la plus grosse unité de prisonniers seniors du pays, une prison un peu particulière pour s'adapter aux besoins de ces détenus plus fragiles. Reportage Nathalie Versieux.
Difficile de penser à une prison quand on franchit la porte de l'établissement pénitentiaire de Zen à 200 km à l'est de Cologne. Ici, ni barreau, ni parloir, le hall donne directement sur le parc. Trois prisonniers vêtus d'un t-shirt rouge passent la serpillière. Tous les espaces sont ouverts et les cheveux gris ou blancs dominent. La directrice du département senior, Maike Menikes.
Nous voyons ici beaucoup de personnes atteintes de vieillissement précoce par rapport au reste de la population. Nous avons des personnes atteintes de diverses formes de démence, de cancer, des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin d'un déambulateur.
Comme le reste de la population carcérale vieillit en Allemagne et les seniors ont des besoins spécifiques. À la prison de Zen, les départements réservés à 87 seniors occupent deux étages accessibles par ascenseur.
Donc deux ascenseurs le long des murs. Il y a une balustrade qui court tout le long du couloir.
Ah, c'est une douche, mais...
Yeah. Donc une salle de bain en fait avec des douches. Dans chaque département de douche, il y a des poignées pour s'accrocher. Un tabouret sur lequel on peut s'asseoir pour se laver.
Le détenu affecté à la bibliothèque nous fait visiter sa chambre.
Pendant des années, j'ai été dans une autre prison, fermée. Mais ici, je suis redevenu un être humain.
La réinsertion, c'est le credo de la directrice Kerstin Hultke-Meierschwick.
Dans une prison fermée, vous ne pouvez pas préparer les gens à la liberté. Une prison fermée, c'est comme d'apprendre à nager hors de l'eau. Pour ça, il faut leur donner petit à petit plus de liberté, aussi en dehors de la prison. C'est de toute façon bien plus sûr pour la société dans son ensemble.
À Zen, tous les personnels en sont convaincus. Le concept de la prison ouverte a fait ses preuves. À Zen, le taux d'échec est stable. Entre 0,1 et 0,3% des prisonniers qui ne rentreraient pas à la fin du week-end, par exemple. Reste un défi, la fin de vie en prison et le développement de soins palliatifs sur place pour ceux qui, détenus de longue date, préféreraient finir leur jour dans le seul environnement qu'ils connaissent. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. L'actualité politique en France, à 2 ans de l'élection présidentielle, la course des petits chevaux a commencé dans le socle commun entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, mais aussi Gérald Darmanin. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
Le ministre de la Justice espère faire partie du casting des présidentiables et pour y parvenir applique les bonnes recettes de son mentor en politique, Nicolas Sarkozy, être partout tout le temps.
Oui, Gérald Darmanin maîtrise parfaitement cet exercice, il l'a encore montré cette semaine après les violences qui ont eu lieu en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il a saisi cette occasion pour proposer de changer la loi, de la durcir et ainsi endosser le costume du défenseur de l'ordre en empiétant sur les plates-bandes de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur largement critiqué sur sa gestion des événements. Gérald Darmanin a senti qu'il y avait une brèche et dans son entourage, on ne s'est pas privé pour pointer les dysfonctionnements du dispositif de sécurité en déclarant si Darmanin avait été ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez aurait été le premier à demander une commission d'enquête et en rappelant que pendant les Jeux Olympiques, quand il était encore place Beauvau, il n'y avait pas eu de mort. Une manière de tacler un concurrent potentiel pour 2027.
Une présidentielle qui approche, Gérald Darmanin veut donc monter en puissance.
Exactement, on va bientôt entrer dans les choses sérieuses et un député macroniste pense que Gérald Darmanin ne s'interdit rien. Autrement dit, s'autorise à croire qu'il a une chance en 2027. L'intéressé a d'ailleurs confirmé qu'il pensait à la présidentielle il y a quelques jours dans une émission télévisée Ambitions Intimes où l'animatrice Karine Le Marchand recueille les confidences des politiques. Nicolas Sarkozy lui-même voit un destin présidentiel pour Gérald Darmanin et une ministre de droite n'en doute pas, le garde des Sceaux a une ambition.
Mais Valérie, est-ce que l'ambition suffit pour gagner sa place sur la ligne de départ?
C'est une condition sine qua non mais pas une condition suffisante. Dans l'entourage l'entourage d'Édouard Philippe, lui-même déjà candidat déclaré à la présidentielle. On relativise d'ailleurs sans magnanimité les chances de Gérald Darmanin de concourir. Un maire horizon s'interroge. Qui est capable de financer une campagne? Gabriel Attal, oui. Édouard Philippe, oui. Pas Gérald Darmanin. Un ministre proche du maire du Havre pense, lui, qu'il y a un cran supérieur pour être présidentiable que Gérald Darmanin n'a pas atteint. Mais une ministre centriste affirme, elle, que Gérald Darmanin a un atout. Il sait parler aux gens plus populaires. Un petit plus et quelques moins pour Darmanin.
Valérie Gasse, merci beaucoup. C'était hier samedi le 1200e jour de la guerre en Ukraine et de la résistance d'un pays qui a surpris le monde entier face à la Russie. Derrière cette capacité à tenir, il y a l'armée ukrainienne qui a su s'adapter et monter en puissance. Il y a l'aide internationale et les faiblesses insoupçonnées de l'adversaire. Mais il y a aussi le rôle clé que joue la société civile ukrainienne. C'est ce que nous montre ce matin notre livre international de la semaine signé Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politique à l'université Paris-Nanterre. Elle publie « Ukraine, la force des faibles » et nous en parle au micro de Juliette Garbrand.
Bonjour Anna Colin-Lebedev.
Bonjour.
En 2022, la Russie pensait s'attaquer à un pays faible et on l'a vu, bien au-delà de l'aide indispensable que le pays a reçue de ses alliés, les Ukrainiens ont une incroyable capacité de résistance. Alors d'où vient cette force du faible que vous explorez dans le livre ?
Pour comprendre en fait les capacités de la résistance ukrainienne, il est important de remonter à 2014, ce moment où l'Ukraine est l'objet d'une agression armée par la Russie, ne l'oublions pas, et où en fait l'État ukrainien est précisément très fragile, la société n'est pas du tout préparée à faire face à une guerre. Pendant les 8 années qui se déroulent entre cette guerre qui démarre au printemps 2014 et l'attaque de février 2022, c'est là que la société ukrainienne se transforme, et c'est là que moi je trouve les ressources de cette résistance que nous avons observée en 2022.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Évidemment. Alors, c'est difficile à imaginer quand on le dit comme ça de manière abstraite. Par exemple, en 2014, lorsque la Russie annexe la Crimée et lance cette guerre dans le Donbass, l'armée ukrainienne est en complète déliquescence. Elle est sous-financée, elle a un personnel qui n'est pas vraiment entraîné. On estime à 6000 hommes, en fait, le nombre de soldats ukrainiens capables de combattre à ce moment-là. Les Ukrainiens vont à la fois s'engager dans des bataillons volontaires, ils vont équiper cette armée, ils vont nourrir cette armée. Et on a tout un tas de petites ONG qui vont intervenir dans ces domaines. Ils vont pousser aux réformes. Tout un tas de petites initiatives. Des activistes d'ONG vont aussi s'engager, par exemple, au sein du ministère de la Défense, en disant qu'ils ont des réformes à porter et qu'après tout, eh bien, il faut être à l'intérieur de l'institution pour les porter. Et donc, en fait, c'est ce travail de fourmis, de millions de petites fourmis, ont constitué cette armée qui, en 2022, en fait, était capable de résister à l'ennemi.
Avec un État, du coup, capable de les entendre et de travailler un peu main dans la main?
Alors en fait, je crois que l'État ukrainien n'a pas le choix. Aucune administration ne ferait le choix de laisser des citoyens, quelque part, rentrer librement dans la prise de décision, prendre autant d'initiatives. Mais là, quelque part, le manque de choix a permis précisément à l'État d'être très ouvert à l'innovation, d'être très ouvert à la réforme, de savoir, les politiques savent aujourd'hui en Ukraine qu'ils ne peuvent se maintenir que s'ils entendent la société civile. C'est un mécanisme que nous observons encore aujourd'hui. Il y a de nombreuses critiques qui sont adressées au pouvoir ukrainien par les citoyens ordinaires et par les activistes très en vue. Nous, on le voit comme un signe de fragilité vu de l'extérieur, mais en réalité, pour l'Ukraine, c'est un signe de force. C'est-à-dire qu'il y a en permanence en fait une demande de réforme, une demande de changement et des citoyens qui s'engagent. Parfois, c'est conflictuel, mais les résultats sont là. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas abandonné l'idée d'avoir une opposition, de différents projets politiques qui se confrontent, mais ça coexiste avec cette idée de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des choses essentielles qui sont la défense du pays. Il n'est pas question d'hypothéquer cette défense en détruisant en fait les institutions de l'intérieur. Mais en même temps, la démocratie doit avancer parce qu'elle continue à être imparfaite et les Ukrainiens, plus que quiconque, en sont en fait conscients.
Et cette démocratie, elle évolue même malgré la guerre.
Je pense que la guerre, paradoxalement, a fait... Alors, elle amène l'État à prendre un certain nombre de politiques qui pourraient être qualifiées d'autoritaires. Par exemple, un certain nombre de limites à l'exercice des médias. Pour ne pas laisser l'information circuler tellement librement que l'ennemi, en fait, pourrait avoir accès à des informations cruciales. Mais en même temps, je dirais, la démocratie a été aussi vivifiée dans la mesure où les citoyens, aujourd'hui, considèrent que la politique n'est absolument pas extérieur à leur vie quotidienne. Certes, j'ai rencontré essentiellement des Ukrainiens qui sont actifs et qui sont engagés, mais ils sont nombreux et ils considèrent que la défense est une chose trop importante pour être laissée aux militaires et la politique est une chose trop importante pour être laissée aux politiques.
Vous étiez en Ukraine il y a quelques jours encore. Que disent vos interlocuteurs à l'évocation d'un éventuel processus de paix ?
L'ensemble de mes interlocuteurs, qui sont des gens qui sont plutôt voilà très actifs dans la société, ne croient pas en réalité dans la volonté de la Russie d'arrêter d'une manière quelconque cette guerre, sinon par la capitulation de l'Ukraine. La capitulation de l'Ukraine, personne n'est prêt à cela, ne serait-ce que parce que tous ces citoyens actifs me disent et me répètent, je sais très bien que si la Russie arrive ici, je ne survivrai pas. Moi, personnellement, je ne survivrai pas, je serai parmi les premiers à être exécutés, torturés, et ma famille avec moi. Et donc, en fait, pour eux, c'est vraiment très, très concrètement une question de survie, de ne pas permettre la capitulation.
Merci Anna-Colin Lebedev. Je rappelle le titre de votre livre « Ukraine, la force des faibles » qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil dans la collection Libelle.
Merci à vous.
Anna-Colin Lebedev dans notre livre international avec Juliette Gerbrand. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan et nous sommes à la veille de l'ouverture du sommet des Nations Unies sur les océans à Nice, dans le sud de la France. Les scientifiques, eux, se sont déjà réunis en pré-congrès et parmi leurs principales recommandations figure la préservation et la restauration des récifs coralliens victimes du pire épisode de blanchissement jamais observé. Une récente étude montre comment les poissons clowns parviennent tout de même à s'adapter. Ils rétrécissent quand les coraux blanchissent.
Rétrécir pour ne pas mourir. L'astuce est de taille. C'est même une question de survie pour les poissons clowns. À l'image du célèbre Nemo de dessin animé, ces petits poissons très colorés vivent en symbiose avec les anémones de mer. Sauf que les anémones, comme tous les coraux du monde, vont mal. Elles perdent leur couleur. Cette année 2025 a même vu le pire épisode de blanchissement jamais observé en raison de la hausse anormalement haute de la température dans les océans. Sachant que les massifs coralliens tropicaux abritent un tiers de la biodiversité sous-marine, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. Mais il y a tout de même une note d'espoir, ou plus exactement de résilience, du côté des poissons clowns. Avec cette étude, parue le 22 mai dernier dans la revue Science Advances, la biologiste et plongeuse Melissa Versteeg et ses collègues de l'Université de Newcastle et de la Société internationale des récifs coralliens ont étudié, pour comprendre l'impact des conditions environnementales sur la croissance des poissons coralliens, plusieurs couples reproducteurs de poissons clowns ayant élu domicile dans les massifs coralliens de Kimbe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De février à août 2023, date d'un autre épisode particulièrement intense de blanchissement, où la température de l'eau avait dépassé les 32 degrés, ils ont plongé avec épuisettes, pieds à coulisses et thermomètres pour mesurer pendant 6 mois consécutifs l'évolution de la taille de ces poissons clowns en fonction de la température de l'eau.
Mais Caroline, pourquoi suivre les poissons clowns en particulier ?
D'abord parce qu'ils restent dans le périmètre de leur anémone et qu'ils sont très faciles à identifier avec leur couleur et leur motif unique à chaque individu. Mais aussi et surtout parce que chez les poissons clowns, la taille a une grande importance et varie en fonction de la hiérarchie sociale. Au sommet, la plus grande, c'est la femelle reproductrice. C'est elle qui règne sur le territoire de l'anémone autour de laquelle vit le groupe, a expliqué Melissa Versteeg au quotidien Le Monde. Vient ensuite le mâle, reproducteur un peu plus petit, et enfin les dominés, des juvéniles qui ont intérêt à ne pas trop grandir. Pour éviter les conflits, ces poissons clowns de rang inférieur gardent une taille d'environ 80% inférieure au couple dominant. Et ce que cette analyse a démontré, en mesurant la taille de 134 poissons clowns pendant 6 mois, tout en relevant parallèlement le niveau de la température de l'eau, c'est que la plupart des poissons clowns, 101 sur 134, ont rétréci, rapetissé au moins une fois au fur et à mesure que la température de l'océan Pacifique a augmenté. Ils ont perdu en moyenne 0,5% de leur taille initiale et jusqu'à 7% pour ceux, 41% d'entre eux, qui ont rétréci plusieurs fois, ce qui est absolument énorme. 7%, ça équivaut pour une femme de 1m65 à 12 cm en moins, ce qui n'est pas rien. Et ce n'est pas tout. En démontrant cette surprenante relation de cause à effet entre stress thermique et raccourcissement corporel, les chercheurs ont aussi découvert que les poissons ayant rétréci au moins une fois avaient de bien meilleures chances de survie que les autres. plus 78% exactement. Et même que les couples de poissons clowns qui ont rétréci ensemble de concert ont eu une probabilité de survie de 80% supérieure aux autres couples. Reste à savoir si ce rétrécissement probablement dû, c'est l'hypothèse de cette étude, à l'activation d'une hormone de croissance sous l'effet de la chaleur, pourrait être à l'œuvre chez d'autres espèces de ces récifs coralliens ou si c'est une adaptation spécifique des poissons clowns qui n'ont décidément pas fini de nous surprendre et de nous en faire voir de toutes les couleurs du vivant.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve cette semaine en direct de Nice à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Au programme autour de la question?
Demain, pourquoi une telle biodiversité dans les océans, des dauphins jusqu'aux crevettes? Et mardi, comment la communauté scientifique, au nord comme au sud, se mobilise pour les océans?
Merci Caroline Lachowski. Et sur RFI, il est presque 5h30 en temps universel.